Toute la journée, Radio France soutient le livre, les éditeurs, les libraires et les bibliothèques. Aujourd'hui encore, cette émission n'aurait pas été la même sans le travail réalisé par une petite maison d'édition, les éditions du Croquant, fondée il y a 17 ans, à peine majeure donc, mais claire sur sa démarche et ses fondements. Critique, collectif, coopérative, la maison publie majoritairement dans le domaine des sciences humaines et dans le sillon de raison d'agir. Dans l'actualité des idées aujourd'hui, le trumpisme reste-t-il un objet populiste non identifié, alors que paraît Haute trahison, le tome 2 de la chute de la météorite Trump aux éditions du Croquant, de l'anthropologue Paul Jorion, chercheur iconoclaste. On l'a connu un an avant 2008, anticipant la crise des subprimes dans la crise du capitalisme américain. Après un premier volume, entamé pendant la primaire de 2015, sous-titré « Un objet populiste mal identifié, la chute de la météorite Trump déjà », il poursuit son journal de bord d'une élection, 16 mois après l'investiture de l'OVNI républicain. C'est là que ses lignes commencent, dans un pays toujours sous le coup de la sidération. Bonjour Paul Jorion.
Bonjour.
Vous êtes avec nous à distance de chez vous, du côté de la Bretagne. C'est le livre d'un observateur passionné, ce Trump, ce Haute trahison, hein, qui est le tome 2 de la chute de la météorite Trump, d'un observateur passionné et obstiné, le regard d'un Européen certes, mais matiné de culture américaine, pays où vous avez vécu et travaillé pendant plus de 10 ans, Paul Jorion.
Oui, en effet, oui, c'est un pays que je connais très bien.
Pour y avoir vécu, hein, et travaillé.
Oui, j'avais déjà des liens familiaux avant, mais j'ai habité effectivement de manière continue de 1997 à 2009, à 2009, dans le pays, travaillant dans le, essentiellement dans le secteur financier, mais ayant aussi gardant des liens avec l'université, en particulier avec l'université de California Irvine qui m'avait invité, et avec l'université de Californie à Los Angeles, UCLA, dont je vais continuer à faire partie d'un des centres Human Complex Systems.
Alors, comme chercheur, vous vous passionnez, on l'imagine, pour la vie des idées américaines, mais visiblement aussi pour la vie politique. En 2016, déjà 2015, pendant la campagne, vous avez suivi de près l'élection qui a vu arriver à la Maison-Blanche Donald Trump.
C'est-à-dire c'était un personnage que tout le monde connaissait. Je regardais un film l'autre jour, un film Die Hard, un film des années 90, et on fait référence à Trump à plusieurs reprises, de manière d'ailleurs un peu prémonitoire, sans le faire exprès. Donc c'est un personnage qui attire l'attention depuis longtemps. Et puis il était clair qu'il s'agissait d'un personnage, je dirais, équivoque, peut-être même dangereux, puisqu'à partir des années 80, il avait fait des déclarations très favorables à l'époque à encore l'Union soviétique.
Est-ce que vous l'avez tout de suite pris très au sérieux ?
Ah oui, tout à fait. Oui. J'ai parlé de proto-fasciste tout de suite, mais dans mon vocabulaire à moi, qui est pas un vocabulaire de polémiste, j'appelle pas fasciste tous les gens qui sont pas d'accord avec moi, dans le sens très particulier, voilà, de quelqu'un qui allait tenter de mettre en place quelque chose de l'ordre d'un Mussolini, d'un Hitler, d'un Franco.
Vous écrivez en introduction de ce livre, de ce tome 2, Haute trahison, qui est un recueil aussi de vos posts sur votre blog, de vos chroniques, Paul Jorion. Vous dites qu'au moment où débute ici l'action, c'est-à-dire en mai 2018, 16 mois après l'arrivée de Donald Trump à la présidence américaine, il est déjà président depuis donc 16 mois et les États-Unis découvrent peu à peu que les institutions de leur pays n'ont pas anticipé l'irruption dans le magasin de porcelaine de leur République fédérale d'un malappris pour qui la frontière entre vérité et mensonge n'existe pas, qui considère son intérêt personnel comme l'unique critère de ce qu'il entend faire, à qui la notion d'un processus collégial est parfaitement étrangère et qui du coup fait rapidement le vide autour de lui en termes de conseiller dont il conviendrait de prendre l'avis, et vous revenez notamment sur ces différentes évictions. On va revenir à cet automne-là et au discours de Joe Biden annonçant le 7 novembre dernier sa victoire à l'élection américaine.
Je m'engage à être un président qui ne cherche pas à nous diviser, mais à nous rassembler. Qui ne voit pas des États bleus et des États rouges, mais uniquement les États-Unis. Et je vais travailler pour tout le peuple. Je vais travailler avec acharnement pour obtenir votre confiance. Les États-Unis, c'est une question de confiance, c'est une question de peuple. Les États-Unis, c'est un peuple. Et voilà le projet de notre administration. J'ai lancé ma campagne pour reconstruire notre nation, pour protéger l'âme des États-Unis, pour protéger la classe moyenne et pour faire en sorte que les États-Unis soient à nouveau respectés sur la scène internationale. Et pour nous unir ici, aux États-Unis, c'est l'honneur de ma vie. C'est un honneur de voir autant de millions d'Américains qui se sont joints à moi, qui ont voté pour cette vision. Et aujourd'hui, nous allons pouvoir commencer à concrétiser cette vision. C'est une grande tâche qui nous incombe.
Voilà, vous aviez analysé, Paul Jorion, l'élection de 2016, qui a vu arriver Donald Trump à la Maison-Blanche sur cette élection-là, où Trump est à nouveau candidat, postule à sa réélection. Quelle surprise dans ce scrutin pour vous ?
Finalement, il n'y en a pas eu. On a eu au moment, le 4 au matin pour nous, c'est-à-dire quand on connaît les premiers résultats des votants, des gens qui sont allés véritablement dans un isoloir, on a pu avoir l'impression que Trump pourrait l'emporter. Et aussi, parce que la tentation est toujours de dire que les instituts de sondage se trompent. Ça avait été le cas en 2016, on a dit les instituts sont trompés, ils ne s'étaient pas trompés du tout. Cette fois-ci non plus, ce ne sont pas trompés. Ils avaient tenu compte du fait que dans un sondage, quand quelqu'un vous dit « je ne vais pas voter Trump », il y a à peu près 1% des électeurs qui mentent. Et à l'image de leur patron, c'est-à-dire qu'ils cachent le fait qu'ils m'ont voté pour Trump. Donc, parce qu'il y a un certain stigma vis-à-vis même de quelqu'un qui, d'un agent qui fait un sondage. Mais si on tient compte de ça, non, on a eu exactement ce qui avait été prévu. 50% du vote populaire au suffrage universel pour Biden et 47% pour Trump. C'est à très très peu de choses près ce que les instituts de sondage avaient prévu. Les partisans de Trump ont dû être surpris parce que eux considéraient que les sondages étaient truqués, qu'ils donnaient un avantage qui était faux à Biden. Eux ont sans doute été surpris par l'étendue de la différence, c'est-à-dire les 5 millions de voix de plus pour Biden. Ils n'y croyaient pas. Et en fait, toute leur stratégie fondée sur des procès à faire ici et là, sur des actions de type juridique, ont été un peu prises à contre-pied par le fait qu'il y a eu finalement très peu d'endroits où ils pouvaient même dire qu'il y avait une contestation possible.
Il y a 4 ans, vous en parlez, c'est le titre encore de ce tome 2, vous parliez de Donald Trump comme d'une météorite, c'est-à-dire cette idée d'une chute, d'un personnage totalement à part, tombant du ciel. Est-ce que vous pensez quand même après coup qu'il y avait un terreau propre à cette élection aux États-Unis à ce moment-là ?
Oui, bien sûr, pour ce type de contestation, il y a toujours un terreau dans les démocraties. Il y a toujours un certain nombre de personnes qui vont venir avec un message extrêmement simplifié, simplificateur, qui, au lieu de remettre en question éventuellement des structures qui vont dans un sens ou dans l'autre, vont essayer de désigner plutôt des individus, des groupes ethniques, et de dire c'est la faute à un tel ou un tel, etc. Ça existe partout, c'est lié en général quand même, et c'est le cas dans le cas de Trump, où la majorité de ses électeurs sont des hommes blancs en majorité qui n'ont pas de diplôme universitaire. Quand on n'a pas le type de formation qui permet justement de comprendre des interactions, par exemple entre des structures qui produisent ceci ou cela, la tentation est grande de dire voilà, c'est mon voisin parce qu'il a une tête qui ne me revient pas, ou bien c'est les machins ou les Intel, on l'a vu dans tous les grands mouvements populistes qui ont toujours été xénophobes, et pire que ça, ont souvent été même génocidaires.
Oui, vous y allez assez fort. Vous dites aussi dans ce livre, dans l'une de vos chroniques d'avril de cette année, vous admettez une erreur d'analyse de votre part. Au moment de l'élection de Donald Trump en 2016, vous pensiez qu'un grand nombre de ses électeurs avaient été abusés et se réveilleraient, prendraient conscience du fait qu'ils n'étaient pas l'ami du peuple.
Oui, effectivement, ça c'est une tendance que nous avons, et ça je dirais c'est ambiant dans le libéralisme qui est le nôtre, c'est un raisonnement de type utilitariste. Les gens votent en suivant leur intérêt, et ça fait partie, je dirais, de la doxa, de l'opinion populaire, du sens commun, on pourrait dire. Or, avec un personnage comme lui, il y a une dimension de ressentiment. C'est pas qu'on considère que ce soit son intérêt à soi de voter pour lui, mais on s'identifie au personnage, au gamin qui proteste, etc. Et là, il y a une analyse faite dans un excellent livre de Monsieur Metzl qui est allé voir, parce que lui c'est un médecin, il est allé voir tous ces gens qui votent contre leur intérêt. Ça l'intéressait en tant que tel. Et là, il s'est aperçu de la chose suivante: les gens qui votent contre leur intérêt, c'est parce que en fait, s'ils votaient pour leur intérêt, ils se rendent compte qu'en bénéficieraient justement ces groupes ethniques qu'ils exècrent et qui en seraient les premiers bénéficiaires. Parmi les électeurs de Trump, il y a beaucoup de gens qui bénéficieraient bien sûr de certaines dans le domaine de l'assurance maladie, des choses comme ça, bénéficieraient des mesures que proposent les démocrates, l'opposition, mais ils savent que les premiers qui en bénéficieraient seraient les noirs et les amérindiens, les minorités principales dans le pays, et c'est pour ça qu'ils refusent ces méthodes, de peur que parce que ça fait partie de la logique de Trump, de dire vous êtes peut-être un misérable, vous n'arriverez rien dans la vie, mais alors c'est le message qu'il n'a pas arrêté de répéter, mais il y a des gens pires que vous, il y a des gens qui sont moins bien que vous, quelles que soient les circonstances. Un noir dans une belle bagnole, c'est quelqu'un toujours de moins que vous parce qu'il est noir. Voilà, ça c'est les raisonnements des populismes de droite qui ne sont pas fondés sur une représentation de type véritablement politique du populisme, mais du ressentiment.
Alors justement, le premier tome de La chute de la météorite Trump qualifiait un objet populiste mal identifié qui venait de remporter la présidentielle. Est-ce qu'aujourd'hui vous arrivez à mieux cerner cet objet populiste 4 ans après? Comment définir cette présidence?
Oui, parce que petit à petit, il s'est, si l'on veut, démasqué. On savait que son père, Fred, était un sympathisant du Ku Klux Klan. Fred, dans les années 20, avait été arrêté lors d'une manifestation et il était à ce point, je dirais, impliqué que son nom se trouvait dans l'article du journal, qui était un article qui faisait 25 lignes, mais il était mis, Monsieur Fred Trump, parmi les gens qu'on avait arrêté pour provoquer du désordre. On savait que Trump avait des sympathies de ce côté-là. Il avait de la sympathie pour tous les régimes autoritaires. Le fait qu'on soit passé de l'Union soviétique à la Russie de Poutine n'a rien changé aux sympathies qu'il a vis-à-vis de ça. C'est-à-dire que du moment que c'est autoritaire, ça lui plaît. On a vu l'excellente relation qu'il a avec M. Kim Il-sung en Corée du Nord. Il s'entend bien avec les autres autocrates. Ça fait partie de sa philosophie, de la manière dont, je vais pas dire du milieu des affaires, de la manière dont lui a fait des affaires. Parce qu'il a toujours fait ses affaires au bluff, par des rapports de force, en utilisant des pègres et des mafias en arrière-plan, en utilisant en trichant vis-à-vis des impôts et des choses de cet ordre-là, ou en tout cas, quand il ne trichait pas, de faire de l'optimisation fiscale par des équipes de dizaines de personnes.
Voilà, aujourd'hui dans ce livre, vous dites que Donald Trump n'est pas un self-made man, il n'a pas ces qualités-là, et il faudrait mieux regarder du côté du patron d'Amazon, de Jeff Bezos, pour trouver un exemple d'un vrai self-made man sur le modèle mythique américain. Vous dites aussi que c'est un président aux méthodes de gangster. Vous êtes très critique sur la personnalité du président, du locataire jusqu'ici de la Maison Blanche. Un mot quand même de son bilan économique avant d'en venir à son action sur la scène internationale. On a évoqué le protectionnisme. Lui a souvent et longtemps mis en avant ce bilan économique. Comment vous le regardez, vous le jugez, vous l'évaluez aujourd'hui, Paul Jorion?
Si l'économie américaine n'est pas en ruine, c'est parce qu'elle a résisté, mais elle a résisté de sa propre initiative. J'ai souligné tout au long des années que sa représentation du monde est une représentation du monde avant la globalisation, avant la mondialisation. Et c'est une représentation qui correspond, je dirais, dans l'histoire de l'économie à la description du monde qui est la sienne. C'est celle de David Ricardo dans les premières années du 19e siècle. Et ça, c'est parce qu'il a un conseiller, M. Navarro, dont la représentation est calée à cette époque. Quand M. Trump, il dit je vais mettre des droits de douane extraordinaires sur les opérations économiques avec la Chine. D'abord parce qu'il comprend pas que c'est le fonctionnement même du dollar qui impose ça. Il y aurait pas ce qu'on appelle des euro-dollars, c'est-à-dire des dollars qui circulent à l'étranger, s'il n'y avait pas un déficit du commerce américain vis-à-vis du reste du monde. C'est comme ça qu'on finance ces dollars qui fonctionnent à l'extérieur. Ça, bon, c'est déjà une chose qu'il n'a pas compris. Alors, quand il dit je vais pénaliser de plusieurs milliards ou dizaines de milliards la Chine, aussitôt les hommes d'affaires de son pays font des délocalisations au Mexique. Alors, le lendemain, il impose des droits de douane avec le Mexique, ne sachant pas ce que tout quiconque connaît un petit peu le fonctionnement sur le terrain, qu'une voiture qui est créée, par exemple, dans la partie nord du Mexique, en fait, avant d'être un produit fini, elle traverse plusieurs fois la frontière parce qu'on ajoute telle chose, parce qu'on a des produits qu'il faut obtenir d'un prestataire de l'autre côté de la frontière, etc. C'est-à-dire que si on appliquait les mesures des droits de douane qu'il impose à la frontière, il faudrait ajouter des taxes à chaque passage, c'est-à-dire peut-être même une dizaine de fois. Il n'est pas au courant de ça. Et malheureusement, c'est la représentation qu'ont beaucoup de gens qui préconisent un retour au protectionnisme, c'est qu'ils ne se rendent pas compte que le monde a changé et que ce n'est plus possible. Il n'y a plus de véritables frontières sur le monde, dans le monde commercial. Alors, on peut le regretter, mais si on veut le critiquer, il faut le critiquer d'une autre manière, comme vous avez pu voir, je fais au passage, en ciblant, en proposant, je dirais, des frappes chirurgicales à tel et tel endroit, et pas des fermetures de frontières qui correspondent, je dirais, à une représentation du monde qui est celle de Ricardo, celle de 1810, mais qui n'est plus du tout du monde tel qu'il est.
Oui, vous dites qu'en matière d'économie, l'administration Trump a des vues semblables à celles qu'elle entretient sur l'immigration, c'est-à-dire bâtir des murs gigantesques. Mais une question, sans l'épidémie de coronavirus, Trump aurait-il pu être réélu selon vous, Paul Jorion? Vous semblez dire que cette crise sanitaire a montré aussi les faiblesses et les défauts de ce capitalisme sauvage tel qu'il le défend. Sans cette crise-là, il aurait pu gagner?
Non, je dirais que non, parce que on s'aperçoit d'une chose, c'est-à-dire en regardant depuis 2015, quand il enclenche sa course à la présidence, jusqu'à maintenant, le nombre de gens qui sont en sa faveur, c'est 45-47%, il n'a pas changé. Il a acquis personne à sa cause. Et ça, il a dû développer une stratégie en sachant que, et c'est probablement son excellent stratège, monsieur Steve Bannon, qui a dû lui dire, tu n'auras jamais une majorité. Et donc, il fallait qu'il bâtisse tout sur sa base, sur les mécanismes des institutions qui donnent, l'avantage dans des élections aux zones rurales par rapport aux zones urbaines. Il savait que le nombre des gens qui pourraient se rallier à lui ne changerait pas. Et c'est ce qu'on a vu, c'est ce qu'on voit dans tous les populismes de droite historiquement, la base ne bouge pas. Ce qui fait penser souvent que c'est une question, pratiquement de psychologie personnelle qui fait qu'on aime ce type de personnage ou ce type de psychologie personnelle liée à des circonstances particulières. Par exemple, de ne pas avoir eu une éducation de type universitaire, plus un tempérament qui se disposait à la colère ou ressentiment, et on devient un électeur de Trump. Mais il n'y a pas de... Si on n'est pas de ce type-là, on basculera jamais de ce côté-là. Il suffit de voir, par exemple, donc les manifestations samedi, quand on voit d'un côté les manifestants d'un côté et les contre-manifestants de l'autre, ce sont pas les mêmes personnes. Je ne veux pas dire d'un type physique, mais dès qu'on les interroge, on entend c'est pas le même profil psychologique. Et ça, bon, c'est quelque chose qui existe toujours. Ce qui n'apparaît pas en général, c'est que voilà, du côté du Parti républicain, on avait, des gens qui avaient la prestance habituelle d'un homme politique ou d'une femme politique. Ce qui fait que cette base sans beaucoup d'éducation, elle n'apparaît en général pas en surface, parce qu'on a des gens comme M. John McCain, parce qu'on a des gens de ce type-là, c'est-à-dire voilà, des universitaires ou des militaires de haut rang, des hommes d'affaires qui ont bien réussi, etc. Mais en respectant les bonnes manières. On a des gens qui ont des bonnes manières. On n'imagine pas un quelconque président précédent ou même un candidat à la présidence posant la question « Est-ce que je pourrais m'accorder la grâce présidentielle à moi-même ?» Ça, c'est la spécificité de Trump.
Sur la scène internationale, sur la question de la place des États-Unis dans le monde sous la présidence Trump, il y a vraiment une inconnue qui a été le fil de cette présidence durant 4 ans. Une question sur laquelle vous revenez longuement dans ce livre, celle des liens entre l'administration Trump et la Russie, sur la collusion supposée, sur cette commission d'investigation même qui a été montée à ce sujet. Au fond, pour vous, de quelle nature étaient ces liens? Ou pour reprendre le titre de votre ouvrage, de ce tome 2, haute trahison ou pas, est-ce que Trump a été, comme on a pu l'entendre, l'espion de Vladimir Poutine?
C'est-à-dire que toute l'affaire, en fait, est liée au fait que dans un cas comme celui-là, on ne voit que la partie émergée de l'iceberg. Parce qu'il est question, justement, en arrière-plan de haute trahison, d'espionnage, de gens qu'on fait venir devant les tribunaux aux États-Unis en leur reprochant de ne pas avoir payé leurs impôts ou d'avoir menti devant telle ou telle commission. Et on lit en filigrane que l'accusation qui plane en arrière-plan, c'est une d'espionnage. Quand une commission du Sénat dit « Monsieur Paul Manafort communiquait avec un espion russe dans des messages cryptés de manière systématique » et on n'a pas accusé Monsieur Manafort, mais Monsieur Manafort savait qu'il le communiquait avec un espion russe. C'est-à-dire qu'on est dans une situation très difficile pour le gouvernement américain. Et comme l'a dit un des commentateurs, il n'y a dans aucun pays un guichet quelque part dans une administration où il est mis « ici, on peut déposer des plaintes contre le président pour des questions d'espionnage ». Ça n'existe nulle part. Ce qui fait que ce sont les services secrets, c'est la CIA, c'est la division du FBI qui s'occupe du terrorisme, qui a dû en arrière-plan essayer d'investiguer ce genre de choses. Mais ce qui a été très intéressant, et là il faut aussi, et ça j'insiste toujours là-dessus, il faut pouvoir lire entre les lignes. Quand M. Mueller est interrogé et que M. Schumer lui pose des questions, c'est peut-être pas M. Schumer, c'est peut-être quelqu'un d'autre, mais qui lui pose la question suivante et que personne n'entend, aucun commentateur ne l'a relevé, je crois que j'étais le seul à relever ça. Et s'il était question en réalité, M. Mueller, d'une question de contre-espionnage, est-ce que ce ne serait pas très délicat pour notre pays? Et M. Mueller dit, de traiter ce genre d'affaires est extrêmement délicat. Personne n'a entendu ça. Alors, personne n'a vu non plus. Enfin bon, je ne me lance pas des fleurs, mais très très peu de commentateurs l'ont vu, et à ma connaissance, moi je n'ai pas vu grand-chose, que par exemple, quand M. Mueller inculpe un certain nombre de fonctionnaires qui se trouvent au ministère de l'Intérieur, qui appartiennent à l'armée à Moscou, à ce moment-là, il est écrit en filigrane « haute trahison pour M. Trump ». Ce n'est pas écrit en toutes lettres. Il faut connaître un petit peu, je dirais, le langage juridique. Il faut voir lire un petit peu entre les lignes. Mais je dis, on lui tend un piège, parce que le lendemain du jour où il y a donc cette inculpation, Monsieur Trump va rencontrer Monsieur Poutine, et je dis, un piège lui est tendu. si maintenant il la question de la voilà de la d'une comment dire de j'oublie l'expression qui était utilisée d'une collusion voilà d'une collusion entre les Russes ou non, la question c'était ça n'a jamais été d'une collusion. Ça a été d'une interférence véritable de la Russie dans les affaires des États-Unis, soit que M. Trump soit éventuellement un agent un russe à proprement parler, ce qui n'est pas tout à fait impossible parce qu'il a eu des tas de contacts qui auraient permis ce type d'offre, soit qu'il est la victime d'un chantage parce que lors de ces diverses phrases, que ce soit à Saint-Pétersbourg ou à Moscou, il se peut très bien qu'on ait filmé ce qui se passait dans ces chambres d'hôtel, comme d'ailleurs, ce dossier style le mentionnait.
Voilà. Et puis, tout ça reste encore, et vous l'évoquez, vous le soulignez dans le livre, de l'ordre des hypothèses que vous égrenez, que vous analysez, et peut-être que des certitudes naîtront bien plus tard. Invité jusqu'à 13h30, l'anthropologue Paul Jorion, à l'occasion de la parution du tome 2 de son livre autour de Trump, cette météorite et haute trahison, c'est le sous-titre de ce deuxième volume.
France Culture, La Grande Table, Olivia Gesbert.
Et demain, Paul Jorion, aujourd'hui la transition a commencé, elle s'annonçait mouvementée et le scénario de son refus de quitter la Maison Blanche est en train de se confirmer. Donald Trump et son entourage crient à la fraude, même si pour l'instant aucun des recours portés n'ont encore abouti. Comment ce déni est-il en train de se formaliser? On va écouter les mots de Bernie Sanders, l'opposant, lors de la primaire démocrate. Bernie Sanders qui expose ce qui pourrait arriver après l'élection. On est bien plus tôt, en octobre. Écoutez, il avait vu plutôt juste.
Il se peut tout à fait qu'à 10 heures, lors de la nuit des élections, que Trump soit en train de gagner au Michigan, en Pennsylvanie et au Wisconsin. Il va à la télévision en disant « Merci les Américains de m'avoir réélu, c'est terminé, bonne journée ». Puis le lendemain et le surlendemain, tous les votes par correspondance sont comptés. Et on découvre que Biden a gagné ces États. Alors Trump clame, « Vous voyez, je vous l'avais bien dit, tout est frauduleux. Tous ces votes en balance étaient tronqués. Et je vous le dis, on ne va pas quitter le bureau. » C'est une de mes inquiétudes et beaucoup d'autres la partagent. On ne sait pas quel sera le résultat. Mais les gens devraient être conscients de cette possibilité.
Est-ce que Bernie Sanders, à vos yeux, Paul Jorion, pourrait avoir raison encore sur le plus long terme? Est-ce que vous n'êtes pas certain, à l'heure qu'il est, que Joe Biden sera intronisé en janvier?
C'est-à-dire, bon, par exemple, hier, une plainte en Pennsylvanie, précisément, de la part des Républicains, portant sur 682 000... vote, en fait, a été, ils l'ont retiré de leur plainte. Ils sont en train de perdre en campagne là-dessus. Il leur faudrait renverser le score actuel, c'est donc 306 contre 231. Il y a là un fossé qui est impossible, même avec des armées de juristes, de combler. Non, la seule chance qui lui reste, c'est un véritable coup d'État. Et là, en sortant samedi, pour se promener en voiture au milieu des manifestants. Je crois qu'il devait essayer de jauger un petit peu la situation. Or, ce qui s'est passé samedi, ça a été une manifestation bon enfant. Il y a eu quelques échanges ici et là. 20 arrestations, c'est rien, absolument rien. Quelques personnes qui voulaient en découdre de toute manière. Il ne s'est rien passé. Ça a souvent été des agents à vélo qui ont séparer les manifestants. On n'a rien eu de violent, on n'a rien eu qui préconiserait quelque chose du type d'une insurrection populaire. Et là, je crois que c'est parce qu'il y a un découragement du côté de ces personnes-là. Quand on les interroge, elles se rendent compte petit à petit que ça n'aura pas lieu. Et d'ailleurs, Trump lui-même fait quelques lapsus ces jours-ci en disant les décisions seront prises comme il faut, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, etc. Bon, voilà. Et puis, il faut bien savoir, dans son entourage immédiat, tout le monde le sait, Madame Melania est pour qu'il reconnaisse sa défaite. Sa fille Ivanka, qui est sans doute la personne au monde qui l'écoute le plus soigneusement, et son beau-fils Jared Kushner sont en faveur de son, voilà, de qu'il reconnaisse son échec dans les élections. Il n'y a que ses deux fils qui sont particulièrement, voilà, mordants, Donald Jr. et Eric, qui sont encore là à maintenir le flambeau. Ce sont des personnes qu'il faudra surveiller par la suite, parce qu'ils tenteront certainement, en tout cas Donald Jr. essayera d'avoir une carrière politique avec la base de son père.
Il y a une très abondante littérature depuis 4 ans sur la personnalité du président, y compris d'anciens proches, comme le livre de son ancien conseiller à la sécurité nationale, John Bolton, après celui du journaliste Bob Woodward, après celui de Michael Wolff, après celui d'une de ses anciennes conseillères. Et vous revenez, vous êtes plongé, vous, longuement aussi dans cette littérature, avec à chaque fois un qualificatif qui revient, c'est l'isolement de Donald Trump. Il a très vite, dès le début de sa présidence, fait le vide autour de lui et il semblerait que ça continue. Plusieurs journaux, dont Libération ce matin, racontent les évictions nombreuses dans son entourage depuis l'annonce de la victoire de Joe Biden le 7 novembre dernier. La purge tous azimuts à la Maison Blanche, écrit Libé, a commencé du côté du Pentagone. Il va finir seul, Donald Trump, vous pensez ?
Il est seul depuis le début. Il est seul depuis son adolescence. C'est un enfant, on pourrait dire un enfant martyr, de la manière dont il a été élevé par ses parents. Sa mère était maladive et n'a pas été très très présente. Et son père était un tyran domestique qui a voulu faire une victime à l'image de lui-même et qui devient par la suite un tyran parce que son estime de soi baisse à toute allure et il doit essayer de la rebooster toutes les 5 minutes. Il est seul depuis le départ. Quand il a eu la seule personne qu'il a sans doute écouté de manière systématique au point qu'on peut imaginer que certaines des stratégies aient été mises en place par Steve Bannon, c'est son stratège en chef, Steve Bannon, représentant donc de l'alt-right, ce qu'on appelle l'extrême droite identitaire en France, un suprémaciste blanc, qui a continué à agir dans les coulisses, même quand il a été révoqué par Donald Trump. Pourquoi est-ce qu'il a été révoqué ? C'était au moment donc des émeutes de Charlottesville, quand une manifestante, contre-manifestante Heather Heyer, est tuée par quelqu'un qui utilise sa voiture comme bélier, et que quand il est sommé de faire une déclaration, il dit à des gens bien des deux côtés, au point que une demi-douzaine de ses généraux réagissent immédiatement en disant non, ça ce n'est pas l'Amérique qui est la nôtre, et il est obligé de limoger Steve Bannon. Mais on sait, les gens autour de lui savent qu'il continue d'avoir des conversations. C'est la seule personne qui constitue, à mon sens, véritablement un conseiller qui l'écoute. Bien entendu, merci. Il regarde la télévision, il admire certains pasteurs, il admire Monsieur Rush Limbaugh et des choses comme ça, ou Alex Fox. Mais ce n'est un véritable conseiller. Je crois que c'est
autre
c'est
chose.
C'est comme Cummings avec Johnson.
Merci Paul Jorion. Merci. Il faut, l'émission touche à sa fin. Il faut qu'on vous laisse là. La chute de la météorite Trump aux éditions du Croquant, c'est le titre donc de cet ouvrage dont le tome 2, Haute Trahison, vient de sortir. Ce sont votre carnet, votre journal de bord de cette élection puis de cette présidence. Merci à toute l'équipe de la Grande Table, à Jean Bulot avec Laura Dutèche-Pérez pour la Grande Table des idées, Aurélien Delacroix avec Henri Leblanc pour la Grande Table culture. À la réalisation aujourd'hui, c'était Félicie Faugère avec Julien Calvas.